Frères et sœurs bien-aimés, en ce 11 novembre, nous faisons tout d'abord mémoire avec toute l'Église de par le monde du rappel à Dieu de Martin, évêque de Tours, le 11 novembre 397. Martin est né en 316 en Hongrie, actuellement en Hongrie, province alors de l'Empire romain. Martin, dont le nom signifie « voué à Mars, le dieu de la guerre », à son père, engagé dans l'armée de l'Empire, et c'est avec l'admiration envers son père que le jeune Martin se destine lui aussi à devenir soldat. Dans son éducation, la foi chrétienne, déjà présente de ci, de là, a beaucoup marqué le jeune Martin. Et il n'est pas impossible qu'il fût à une école où la foi chrétienne était enseignée, de telle sorte que dès l'âge de 10 ans, voilà qu'il se met à honorer notre Seigneur Jésus le Christ, à le prier, à l'invoquer, et déjà Martin lui appartient, jusqu'à recevoir le sacrement du baptême. Martin parcourt, au gré des besoins de l'Empire, les besoins militaires, et l'un des hauts faits dont on se souvient avec émotion, à l'image de l'Évangile que nous venons d'entendre, où le Seigneur nous invite à habiller ceux qui sont nus, voilà le jeune Martin qui entre dans la ville de Tours, dans la ville d'Amiens, pardon, en 334 sur son cheval, et dont le regard de la foi l'habite, et voilà qu'il reconnaît le Christ dans un de ces pauvres dénudés qui meurt de froid. Martin, à la charité bien vive, enlève sa chlamyde, cette fameuse cape rouge caractéristique des soldats de l'Empire. Il ne coupe pas le manteau en deux, comme on le voit souvent dans les représentations, parce que la cape ne lui appartient pas, il ne s'agirait pas de voler l'Empire. En revanche, chacun est libre de pouvoir doubler cette cape, et voilà Martin qui ôte la doublure de sa cape pour en vêtir le pauvre. Et quelque temps après, le Christ lui apparaîtra pour lui dire « Martin, j'étais nu et tu m'as habillé ». Ce fut alors pour Martin le désir de suivre le Christ plus étroitement. Finissant son engagement dans l'armée, il n'a de cesse, en allant rencontrer le grand Saint-Hilaire de Poitiers, eh bien de vouloir se donner au Christ. Parce qu'il avait été un homme d'armes, il ne pouvait pas devenir diacre ou devenir prêtre. Alors il se destine à la vie monastique. Et c'est le premier monastère qui est fondé en notre Gaule, confié eh bien, à Martin. Voilà que nous sommes en 361. Le premier monastère est fondé dans un lieu qu'on appelle aujourd'hui Ligugé, ou plus exactement, à la suite de la sainteté éclatante de Martin, le monastère Saint-Martin de Ligugé. Voilà qu'il va vivre cette vie d'ermite, il va beaucoup prier et intercéder pour le monde en détresse. Déjà, à cette époque, les choses n'ont guère changé. Puis, lorsque l'évêque de Tours vient à mourir, et la charité de Martin si connue de la population, voilà que les gens de Tours vont chercher Martin, car ils le veulent comme évêque de cette ville. Martin sera un évêque très attentif, des plus pieux, enseignant la foi chrétienne avec joie, avec le souci des pauvres et le souci de cette vie de charité. Une foi qui s'est attelée à bien enseigner et fortifier ces chrétiens de la ville de Tours, voilà qu'il se fait l'apôtre infatigable de nos campagnes gauloises. Il va annoncer cette bonne nouvelle à tous ceux qui, loin des villes, étaient privés de la bonne nouvelle du salut, jusqu'à s'éteindre en apôtre infatigable du Seigneur Jésus. Ce 11 novembre 1397, il faisait froid, mais voilà qu'au moment de sa mort, une grande chaleur envahit la Gaule. C'est le début de ce que l'on appelle depuis lors l'été de la Saint-Martin. Martin a profondément marqué notre nation, de telle sorte qu'un grand nombre de localités ou de patronymes, dont celui de votre curé, porte le nom de Martin. Martin fut choisi également par nos dynasties royales pour porter leur nom de famille. Je m'appelle Martin, il s'appelait Capet, du nom de la petite cape de Saint Martin, relique très vénérée. Et notre grand roi Dagobert fut d'ailleurs enterré tout près de là où repose Saint Martin de Tours. C'est donc un apôtre infatigable de notre nation vers qui nous faisons monter nos prières d'intercession pour que cette foi bien vacillante en notre 21e siècle, en cette terre jadis si chrétienne, ne s'éteigne pas. Le regard de la foi, celui qui fut la pierre d'angle de notre civilisation chrétienne, particulièrement en notre chère France, s'enracine dans l'évangile que nous venons d'entendre. Le regard de la foi, cet amour qui nous unit à Dieu, ne nous fait pas délaisser le prochain. Au contraire, pour manifester à Dieu l'amour profond que nous lui vouons, nous sommes renvoyés à l'amour du prochain. Le Seigneur l'a dit, chaque fois que vous le faites à l'un de ses petits, c'est à moi que vous le faites. Saint Paul, dans sa conversion sur le chemin de Damas, en fit l'amère expérience. Lui qui persécutait la jeune communauté chrétienne au nom de son judaïsme pharisien, eh bien, lorsqu'il tombe de son cheval, entend le Christ lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Le Seigneur Jésus était déjà mort et ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père. Et pourtant, il lui dit bien « Pourquoi me persécutes-tu ? Chaque fois que vous le faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Chaque fois que nous donnons à manger à celui qui est affamé, nous le faisons par amour de Dieu et par amour du prochain, comme Martin a su si bien le caractériser. » En ce 11 novembre de l'an de grâce 2023, nous faisons mémoire, bien sûr, de cette victoire qui permit de libérer la France. Trois grands conflits nous ont opposés à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle à cette Allemagne naissante et qui s'unifiait. Tout d'abord, la proclamation de l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces qui fut pour nous l'affront suprême avec l'amputation de notre territoire, de l'Alsace et de la Lorraine. Cette terre de France, occupée par l'envahisseur une première fois et encore dans notre histoire, et nous devons, eh bien, à la mobilisation nationale de tous bords, à la fois les hommes envoyés au front dans leur jeunesse pour défendre cette terre que nous aimons et cette patrie nourricière pour chacun d'entre nous. Et puis ces femmes qui se sont efforcées de faire tourner notre nation. Nous pensons à tous ces sacrifices de ces jeunes hommes qui ont offert à la suite de notre Seigneur Jésus le Christ sa vie pour que nous ayons nous aussi la vie et une vie libre. Le Seigneur nous dit, attention, ce n'est pas la liberté qui vous rend libre, la vérité vous rendra libre. Et lorsque l'on combat pour le bien, lorsque l'on se défend de l'occupation étrangère, voilà que nous embrassons la cause du bien et du bien commun, même si ce n'est pas sans massacre. Nous pensons aux batailles de la Somme et à bien d'autres boucheries de cette terrible guerre. Pour nous, en Bigorre, nous avons l'un de nos compatriotes, le maréchal Foch, dont nous n'avons pas à rougir du grand dévouement. Fils de notre Bigorre, né en notre cité de Tarbes, dont les terres ancestrales sont aux confins de notre Bigorre, dans la rivière Basse, à Castelnau plus exactement, fut l'un des nôtres et finit, après sa brillante carrière militaire, par être nommé généralissime des armées. À une époque bien trouble, voire honteuse, où on cherche à salir tous nos grands hommes, où on aimerait déboulonner telle ou telle statue pour telle et telle lubie, nous oublions une chose essentielle, c'est que même les grands hommes ici-bas sont façonnés tout autant de ténèbres que de lumière. Nous sommes tous de pauvres pécheurs. Mais pourquoi veut-on à ce grand héros de guerre que fut le maréchal Foch vouloir nous faire croire aujourd'hui qu'il fut désobéissant, qu'il fut une tête brûlée et que finalement on ne lui doit pas grand-chose ? Pauvre France, qui ne sait même plus reconnaître la grandeur de ses hommes qui ont su avec courage avancer au plus fort du combat. Sa grande devise qu'il répétait très souvent, c'était « Allons-y ! » Et il n'a pas eu peur, justement, de se lever et d'aller au plus fort du combat avec les armées alliées pour gagner cette guerre. Le maréchal Foch est également connu pour sa très grande foi. Et toute sa carrière, on lui fit payer le fait qu'il était catholique. N'oublions pas que nous sommes dans la Première Guerre mondiale, à quelques années de la séparation de l'Église et de l'État, et que cette séparation, non pas de notre côté, mais du côté de notre nation, s'est faite avec beaucoup de drames. Nous pensons à toutes ces congrégations religieuses expulsées de notre territoire, à tous ces biens de l'Église qui ont été confisqués, et à ces persécutions jusqu'à aller chasser nos braves chartreux qui, dans cette vie de chartreuse, menaient leur vie érémitique. Eh bien voilà que dans ce contexte d'anticlérical, le maréchal Foch demeura fidèle à sa foi, fidèle aux engagements de son baptême et de l'Évangile. Nous n'avons donc pas à rougir en Bigorre d'honorer par ses statues et par nos rues, de par le monde et en France particulièrement, ce grand héros. Et la présence de ses descendants aujourd'hui honore particulièrement notre pays Toy. Lorsque nous considérons le général, nous voyons à travers lui tous ces hommes également qui ont été commandés pour délivrer la France. Et ce n'est pas parce que nous mettons en lumière un général que nous devrions, dans le même temps, désavouer tous nos poilus. Une guerre se fait par l'unité, une unité qui nous manque cruellement. Et nous demandons au Seigneur, par l'intercession de Saint Martin, de pouvoir demeurer unis, unis dans les temps troubles, unis pour pouvoir parvenir à la paix. Je terminerai enfin pour dire que cette vie de Saint Martin, qui a donc commencé dans cette vie érémitique en 361, vit un siècle plus tard. L'un de ses fils spirituels, Savin, venir en notre vallée des Gaves, aller sur les hauteurs de Poitiers-Ferré pour lui aussi s'adonner à la prière et fonda notre chère abbaye bénédictine de Saint-Savin. Voilà que nous avons reçu la foi de Saint-Justin, que Saint-Savin est cette figure qui n'a pas eu honte eh bien, de porter le Christ, tout comme le maréchal et tous nos poilus qui, dans le plus fort des combats, se sont tournés vers Dieu avec de grandes dévotions, particulièrement au Sacré-Cœur. Nous pensons au grand chant des poilus, « Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur, sauvez la France au nom du Sacré-Cœur ». Voilà ce qu'ils chantaient dans les moments difficiles, avec également une grande dévotion pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Eh bien, puissent tous ces saints puissants au ciel prier pour nous, alors que nous rendons grâce pour le sacrifice de tant de vies. Ne bradons pas notre liberté ni ces idéaux anciens qui s'enracinent dans l'Évangile, alors le Seigneur nous permettra d'entrer dans la Cité Sainte du Ciel, ainsi soit-il.